Cours de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 3 juin 1993.
première de l'homme. L'homme avait cette responsabilité. Alors, ceci fait partie de la personne humaine au sens fondamental. J'irai le préciser peut-être après. En essayant de comprendre le point de vue du corps, parce que c'est lié au corps, ça. Et progressivement, l'économie s'est séparée de la famille. Se séparant de la famille, elle a pris une sorte d'autonomie propre. C'est presque comme une finalité. Sûrement que l'économie aujourd'hui joue un rôle capital dans le point de vue politique, qui met l'aspect politique en situation limite. Mais notre économie aujourd'hui est une économie être uniquement nationale d'un pays. Elle est internationale. Vous voyez comment l'international intervient comme un élément essentiel du point de vue politique. Donc c'est le tout. Et on voit comment la philosophie hegelienne, à ce point de vue-là, va prendre le pas sur une philosophie de la finalité. C'est le conditionnement qui prend le pas sur la finalité. C'est vrai pour l'individu avec le point de vue psychologique. Et c'est vrai du côté politique avec l'économie. On est devant des positions disparu. Vous voyez, quand Heidegger dit l'oubli de l'être, je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental. C'est l'oubli de la finalité, qui est très ancien, puisque vous remontez jusqu'à Don Scott. Ce sont les théologiens qui ont fossoyé, qui ont enfoui, qui sont les fossoyeurs de la finalité. Alors qu'ils devraient être les défenseurs de la finalité. Parce qu'on ne peut pas nier que la vie chrétienne met un primat sur la finalité de façon étonnante. D'une façon peut-être telle que c'est très difficile à vivre. Tous les réactions dans les pays chrétiens que le marxisme a pris corps et s'est imposé. Et on passe de la finalité à la cause matérielle. L'économie, c'est la cause matérielle. Puisque la disposition, comme dit très justement Thomas d'Aquin, ex parte materiae. Quand vous ne voyez que la disposition, vous vous enfermez dans la cause matérielle. C'est vrai au point de vue psychologique, c'est vrai au point de vue économique. Il y a des liens entre tout ça. Et on comprend très bien que la philosophie adéquate à tout ça, c'est la phénoménologie, le vécu. Et il y a des liens très forts qu'il faut saisir du reste et qui font comprendre comment la philosophie hegelienne devient la philosophie dans notre monde d'aujourd'hui. Et si je fais une philosophie de notre temps, c'est la philosophie hegelienne. Parce que c'est le primat de la disposition. passe aujourd'hui, c'est de pousser la philosophie des valeurs. C'est ce qui se fait, du reste, c'est ce qu'on voit. Alors, est-ce que cette philosophie des valeurs est-elle un 7 contre 1, un anti, ou est-elle vraiment la philosophie humaine? Oui, ce sont les problèmes qu'il faut se poser par rapport à la personne politique. Nous devons tous assumer une personne politique si nous sommes une vraie personne humaine. Le religieux, chrétien, dont toute la vie est basée sur la grâce. La grâce ne supprime pas la nature, mais l'assume. L'aspect de la vie religieuse me met au-delà du point de vue politique, mais ne me met pas anti-politique. Il faut faire attention. Autrement, je n'assume pas du tout. Me permet d'avoir un regard politique de sagesse. Et donc, de comprendre ce que doit être l'homme politique. Et de fait, l'Église nous demande absolu de l'économie conduit à un socialisme intégral. et fait que la seule vision de l'homme est psychologique. Mais je crois que c'est très important pour nous de comprendre ça, hein. Même si on ne peut pas faire grand-chose. Du point de vue politique, on a les pieds et les mains liés. On est un citoyen parmi les autres, et on est le dernier des citoyens, puisque on mesure l'influence des gens à l'économique. C'est ce dont vous dites, n'est-ce pas, pour vous présenter ce que c'est qu'un citoyen, il vaut tant. C'est-à-dire, il gagne tant. Vous gagnez combien? Vous ne gagnez rien, et non seulement vous ne gagnez rien, mais vous êtes parasite par rapport à la société, au point de vue économique. Je comprends qu'on les irrite. On ferait mieux les supprimer. C'est une manière d'être martyr. Oui. Mais si on le vit vraiment, hein, consciemment, je crois que c'est très très important de le vivre consciemment, de vivre consciemment qu'on est des mendiants. Et donc un mendiant, il vit de l'argent des autres. Et quand il vit de l'argent des autres, il fait grande attention que cet argent ne lui appartient pas. Il nous a été donné pour que nous soyons des hommes de Dieu, des hommes du Christ. Donc, si on est homme du Christ, par le point de vue de la contemplation, par le point de vue du travail intellectuel, théologique et philosophique, uniquement la sagesse, on ne peut pas être mendiant pour être un savant. Seule la sagesse permet la mendicité. Et ça, c'est politique. Donc si on est fidèle à la recherche des trois sagesses, on a le droit d'être un mendiant. Si on n'est plus au niveau de ces trois sagesses, on n'a plus le droit d'être un mendiant. On doit avoir un atelier qui rapporte. Oui, il faut saisir ça au point de vue politique. Je crois que la situation limite, au point de vue politique, c'est le primat de l'économie. Alors, qui se traduira de fait dans un égalianisme de droite et de gauche. Le primat de l'économie peut très bien engendrer un aspect idéaliste de la contemplation. La valeur suprême, c'est la contemplation. La valeur suprême, c'est pas la finalité. La valeur suprême, c'est la contemplation. Il faut maintenir des contemplatifs à tout prix, mais nourris par l'État. Soutenu par l'État, aidé par l'État. L'État doit se garder, vous voyez. Mais c'est comme l'État qui garde un lieu réservé où il n'y a pas de chasse pour que les animaux puissent vivre. On a des lieux où l'on garde une faune parfaite. Il y a une faune très particulière qui est la faune contemplative. Et on garde cela dans un jardin de luxe. Alors, un jardin de luxe, comprenant, tu restes que c'est un luxe qui doit être très particulier, parce que autrement ça pourrit. Les plantes trop fragiles doivent avoir un climat mesuré par l'État. Et là, on a cette valeur suprême qui est la contemplation. C'est pas la finalité. C'est une contemplation liée à l'homme, pas liée au Christ. Et ainsi de suite. Alors on aurait là un socialisme de droite. Et puis un socialisme de gauche, où les valeurs sont supprimées et on garde uniquement l'aspect matériel. Mais c'est Platon. Pour Platon, la valeur suprême, le roi doit être contre. suprême, c'est sûrement la pensée, l'esprit. Donc c'est aussi le contemplatif. Mais pas la contemplation de Dieu, la contemplation du tout. Alors il y a deux extrêmes dans lesquels on est souvent coincé. Et je crois que c'est ce qui existe aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dira partie de droite, partie de gauche, ça revient au même. C'est très curieux. Parce que ce sont les deux contraires. Dans le même genre. Alors on bascule d'un côté, on bascule de l'autre. Ça n'a pas grande importance. La finalité est complètement supprimée au plan politique. Et c'est l'économie qui a la place d'être là comme une condition sine qua non. L'économie est une condition sine qua non pour le bénévivere. C'est bien évident. Mais c'est une condition sine qua non. La condition sine qua non ne détermine pas. Mais la condition sine qua non doit être regardée pour elle-même. C'est comme au point de vue psychologique. Et être équilibré, c'est une condition sine qua non pour la sagesse. Mais c'est pas ma détermination. Je ne vis pas pour être équilibré. Ce serait triste. Je ne vis pas pour ne pas faire de crise. Je ne vis pas pour empêcher le drame. Non. Je vis pour aimer Dieu et le prochain, pour contempler. Et la contemplation, à ce moment-là, prend tous ses droits, mais elle n'a aucun droit politique. C'est pas la contemplation qui me donnera les principes politiques. Mais la contemplation me donnera une vision juste de l'homme. Et cette vision juste de l'homme permettra de comprendre le plan nécessaire politique. Je passe par l'homme. Et la scolastique décadente veut, à partir de la contemplation, déduire la politique. Alors vous savez, la fameuse politique de droite chrétienne. Alors on déduit la politique à partir des principes chrétiens. L'évangile ne nous donne aucun principe propre politique. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais l'évangile nous permet d'avoir une vision juste de l'homme. Et à partir de la vision juste de l'homme, je peux comprendre la position exacte du politique. Et je crois que c'est très très important de voir ça. Et l'hégélianisme est une hérésie chrétienne. Et cette hérésie chrétienne, socialiste de droite, socialiste de gauche. Et vous avez là le point de vue politique dans lequel on est aujourd'hui. Vous voyez comme c'est difficile de dépister ça pour un homme qui n'a aucune formation philosophique. Donc, aucune vision de l'homme. Donc le tout. Je crois que c'est important de saisir ça. C'est pour ça que c'est important de remonter à la source de ces erreurs, qui est Hegel. C'est là où on le voit le mieux, quoi. Autrement dit. On le verrait pour d'autres points de vue marxistes, au point de vue mais au point de vue de la pensée, c'est Hegel, de droite et de gauche. Et Hegel lui-même n'est que de droite. Et la gauche, c'est les succès d'années d'Hegel. C'est la scolastique hegelienne. Le marxisme. essentiel. L'homme est essentiellement un animal politique. Mais ce point de vue politique, je peux m'y engager plus ou moins. Mais c'est là où il y a la liberté de l'homme. Je suis nécessairement engagé dans le point de vue politique. Mais je m'y engage où ? D'une façon active ou d'une façon, je ne dis pas passive parce que c'est faux, comme celui qui coopère. Et là, il y a toutes les coopérations possibles. Et même le philosophe qui, en tant que philosophe, donc en tant que contemplatif, se met au-delà du point de vue politique, doit coopérer au point de vue politique, mais du côté de l'intelligence. On n'a pas le droit de ne pas coopérer si on est un sage, si on a le point de vue de la sagesse philosophique. On n'a pas le droit de ne pas coopérer. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de s'isoler. Si ça l'est complètement, en disant la politique ça m'est égal, on ne peut rien y faire, on n'a pas le droit. Vous n'avez pas le droit, quand vous assistez à un naufrage, de vous laver les mains. Alors, on assiste au naufrage politique aujourd'hui. Hein. Socialiste de droite, socialiste de gauche, c'est-à-dire le primat d'économie des deux côtés. C'est ce primat d'économie qui commande tout. Même si on a l'impression qu'on peut faire très peu de choses, on doit le faire. Parce que je crois, quand on est en situation limite au point de vue politique, la seule chose qu'on peut faire, du moins la première chose qu'on doit faire, c'est la lucidité. Être lucide. Voir ce qui se passe. Et c'est un devoir du contemplatif. Parce qu'il est homme. Le contemplatif reste un homme et donc il doit être lucide. Il doit être lucide devant ses dégâts. D'une dialectique de droite, d'une dialectique de gauche. Et il n'a pas le droit de coopérer à cela. Mais ne pas coopérer à ça, ça ne veut pas dire s'abstenir. Je veux dire, voir où il peut faire quelque chose. Alors, encore une fois, en tant que religieux, c'est différent. Là, je parle au plan de vue philosophique. Mais il faut d'abord regarder ça au plan philosophique. Parce que vous n'y comprenez rien si vous ne regardez pas ça d'abord au point de vue philosophique. Donc au plan philosophique, l'homme n'a pas le droit de se séparer du point de vue politique. En disant, la maison brûle, ça m'est égal. Moi je continue de prier. Et c'est le fameux ermite de Montmorin qui voit à côté de lui le petit chalet, l'ermitage de son frère. Brûle, et c'est l'heure où il récite son office. Récitons notre office. Et l'ermitage brûle. C'est merveilleux comme exemple. Et puis continue, c'est l'heure de réciter l'office. Il avait complètement oublié que dans cet ermitage, il y avait un ermite qui ne pouvait pas se sauver seul. Parce qu'il était paralysé. Et enfin, c'est ça, ce que nous voyons aujourd'hui. Vous voyez, si le point de vue politique était facultatif, je comprendrais ça. parce qu'il est né dans une famille. Mon enracinement politique, c'est ma famille, selon la chair et le sang. Et que j'ai reçu une éducation, et j'ai reçu un enseignement. Je l'ai reçu. Puisque je l'ai reçu, j'ai un débitum, un dû. Et je dois donc tout faire pour que l'État n'écrase pas la famille.
Pas d'intermédiaire, je peux pas dire que c'est emprunt.
ici, il y a un intermédiaire artificiel. Je peux me baser sur cet intermédiaire artificiel pour dire la nature humaine. De la disposition. et que l'État doit tenir compte de la disposition, de l'éveil, de l'intelligence, de l'éveil affectif, de l'éveil de la vie humaine, tout court, à tous les niveaux. Donc là, on peut dire qu'une politique humaine va impliquer être gardien des valeurs. Ça peut se comprendre, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on doit le comprendre. C'est que le point de vue du choix, de la finalité de la personne humaine est au-delà du point de vue politique. Il est profondément personnel. Donc l'État ne peut pas avoir la main dessus. L'État doit respecter la personne humaine comme personne humaine, qui a une finalité qui dépasse l'État. Mais l'État doit être gardien des valeurs qui permettent l'éclosion de la finalité pour l'individu et la personne. Je crois que c'est de cette manière-là qu'on peut lutter contre un socialiste de droite et de gauche qui confond valeur et finalité. Est entièrement parti d'un tout. Et que l'État socialiste, c'est le tout. Et je dis bien qu'il y a un socialiste de droite et un socialiste de gauche. Et on n'a pas le droit d'accepter ce socialiste de droite et de gauche. Si on veut être un être humain, un être spirituel, un être qui maintient sa liberté de choix, point de vue finalité. Alors c'est à partir de là qu'il faudrait regarder, voyez, les points chauds entre le point de vue, le primat du socialisme et maintenir les finalités. Alors les finalités, elles sont du côté de l'esprit et elles sont aussi du côté du corps. C'était très beau et très grand. Alors, c'est là où, au plan plus philosophique, hein, comprenons que la personne humaine, dans toutes ses dimensions, c'est ce que nous cherchons, implique qu'on assume le corps. Le corps fait partie essentielle de ma personne humaine. Je dois l'aimer. Il y a un amour naturel de mon corps. Mais un amour naturel qui est toujours subordonné à l'amour de la recherche de la vérité. De l'amitié et soumis à la prudence qui doit se développer à l'intérieur de la prudence. Ce n'est pas une finalité, le corps. C'est une valeur. C'est la première des valeurs. Ce n'est pas une finalité. Je ne vis pas pour mon corps. Je vis avec mon corps et je vis dans mon corps, mais je ne vis pas pour mon corps. Et je dois donc bien comprendre le sens de cette valeur. Le réalisme philosophique, le réalisme de la personne humaine, J'ai un corps délabré, complètement délabré. C'est un poids. C'est un poids pour mon intelligence, pour mon amour, mes capacités d'aimer. Est-ce que je n'ai pas le droit de le supprimer? Ce serait beaucoup mieux. Il y a des personnes qui vous posent ça à froid et qui sont prêtes au suicide. Et qui ne cessent de vous talonner là-dessus. Ils vont même jusqu'à dire, mais tuez-moi si je n'ai pas le droit de me tuer. Je vous en supplie que je disparaisse. Je souffre trop. Alors vous devez rester là, calme et paisible, en disant, continuez de souffrir. Mais c'est pas toujours commode, hein. Jusqu'où l'âme domine-t-elle le corps? C'est la question. Si mon âme spirituelle dominait parfaitement mon corps, je pourrais dire, même si je suis croyant, même si je crois en mon âme créée, Seigneur, prenez-la, je vous la remets. Mon corps, je vous le remets. Vous me l'avez confié, c'est vrai. Vous l'avez confié, mon âme domine mon corps. Alors je vous le remets maintenant. Parce que mon corps devient beaucoup trop gênant. Il fait beaucoup trop souffrir. Et j'ai pas envie du tout qu'on me conduise à l'hôpital et qu'on se serve de moi comme un cobaye. J'ai pas le droit. Je respecte mon corps et je mourrai noblement. Et mourir noblement, c'est l'offrir à Dieu en prenant une petite pastille, pas grand chose, quelques gouttes. Ça suffit pour que je disparaisse de cette terre noblement. J'ai pas envie de vivre indignement comme un pauvre type qui lamentable, comme un ver, qui n'a qu'une seule envie, c'est de trouver un trou dans la terre. Et jusqu'où? Mais parce que la personne humaine implique qu'on a commencé par l'esprit. On a vu la recherche de la vérité. Alors, j'ai un petit univers qui m'est remis. Alors, quand ce petit univers qui m'est remis commence à vieillir de façon telle que je perds le contrôle de mes actes, que je ne peux plus chercher la vérité, et que ça a été mon seul souci durant toute ma vie, que je ne peux plus aimer vraiment, je deviens tyran à l'égard de ceux que j'aime, de ceux qui sont proches de moi et que j'aime, et parce que je vieillis, je ne supporte pas que ceux qui sont auprès de moi aient un peu de liberté. Et je deviens tyran. Les vieillards deviennent des tyrans. Rien de plus tyrannique qu'un vieillard. Alors je comprends très bien qu'un vieillard qui sait ça, qui a une certaine noblesse de l'âme, supplie de disparaître. Pour ne pas être tyran à l'égard de ceux qu'il aime. Et tyran à l'égard de ceux vraiment qu'il aime. Vous voyez, pourquoi ne puis-je pas faire cela? Mais alors on touche à un problème qui est le problème de la personne humaine en situation limite. Je sais que mon corps peut me mettre en situation limite. Donc je porte en moi un germe de situation limite. Et quand je commence à vieillir, je vois que cette situation limite commence à s'approcher. Alors ai-je le droit de démissionner? Allez, situation limite approche, bien. Mais moi dans le cercueil vivant, ou bien ai-je le droit de dire non? Là, arrête-toi. Parce que je veux garder ma dignité. nos énergies. Jusqu'où devons-nous accepter que le conditionnement matériel s'impose à nous d'une façon telle que ce conditionnement nous détermine? Est-ce que ce n'est pas une attitude?